Alors maintenant, on est invité à quitter cette sainte montagne et nous mettre en route vers le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. On prend la route et j'avoue que je n'ai pas réussi à intégrer le Lévitique là, dans la BST. Il faudra que je réussisse un jour ou l'autre, c'est un livre important. Et je saute au livre des Nombres. Au livre des Nombres, ça commence par d'interminables recensements. Et quand on enregistre ça, on n'en sort plus. Et j'ai entendu une fois à la télé un rabbin qui parlait. Il disait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de noms dans la Bible? Pour nous apprendre que personne n'est un numéro. Et dans les cartes d'identité, maintenant, même les fiches qu'on fait, la police, tout ça, dans les camps de concentration, on vous tape tout ça sur le bras, on est des numéros. Et bien pour Dieu, chacun a un nom propre dans le cœur de Dieu. Et il a un nom qui n'a jamais été donné depuis les origines du monde, qui ne sera pas donné jusqu'à la fin du monde. Il paraît que ceux qui font de la génétique là sont aperçus qu'il n'y avait pas deux personnes qui ont le c'est ce code génétique. Oui. Alors il y a des noms, des tribus. Alors il y a la tribu de Lévi qui échappe à ce recensement. Ce recensement a pour but de montrer que maintenant que Dieu est au milieu du peuple, eh bien chaque tribu, chaque personne dans la tribu n'a sa raison d'être que par référence à la présence divine au centre. Alors il y a une tribu qui est privilégiée, c'est la tribu des Lévites. N'enregistre pas la tribu des Lévites. Les Lévites sont chargés de la demeure et les Lévites assureront le service de la demeure du témoignage. Vous connaissez tous ce psaume qu'on dit souvent accompli, là, le psaume numéro 16, où un Lévite chante le bonheur extraordinaire qu'il a d'être comme ça au centre de tout le dispositif. J'ai dit à Dieu, c'est toi, mon Seigneur, mon bonheur n'est qu'en toi. Tu es ma part d'héritage et ma coupe. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Negdi, c'est comme Ezerk Negdo. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Et mon cœur exulte, et mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Tu m'apprendras le chemin de la vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Alors toute la famille, tout le peuple se structure comme ça, en fonction de la demeure. Et puis alors ensuite, le peuple structuré va prendre le départ. Et alors, ça enchaîne directement avec la fin de l'Exode. Vous vous rappelez encore, quand la nuée se lève, ils s'en vont, quand la nuée s'abaisse, ils campent, tant que la nuée reste en place. Il campe tant que la nuée s'élève. Alors on a tellement peur qu'on n'ait pas compris qu'on vient là-dessus. Alors je vais lire le texte. Et chaque fois que vous avez en français sur l'ordre de Dieu, vous avez en dessous en hébreu Alpi Adonai, sur la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est là qu'on apprend ce que ça veut dire. Et si ce Alpi Adonai est répété 7 fois, vous pouvez compter si ça vous amuse, c'est pas par hasard. Et c'est tout un style de vie. Il faut faire des projets, il faut faire tout ça. Il faut surtout être attentif à la providence telle qu'elle s'exerce dans notre existence concrètement, en mettant un pied devant l'autre. Saint Paul, je ne sais plus, dans les Éphésiens, je crois, parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. Mais c'est en déchiffrant l'existence, en voyant l'échelle de Jacob partout plantée, Dieu est dans le lieu, je ne le savais pas, qu'on avance, on est sûr d'avancer sans faire de trop de faux pas. Alors on revient là-dessus, c'est au chapitre 9, verset 15. Le jour où l'on avait dressé la demeure, la nuée avait couvert la demeure, la tente du rendez-vous. Du soir au matin, elle reposait sur la demeure sous l'aspect d'un feu. Ainsi la nuée la couvrait en permanence, prenant l'aspect d'un feu jusqu'au matin. Lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la tente, alors les Israélites levaient le camp. Au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les Israélites. Les Israélites partaient sur l'ordre de Dieu. Et sur son ordre, ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Si la nuée restait de longs jours sur la demeure, les Israélites rendaient leur culte à Dieu et ne partaient pas. Mais s'il arrivait que la nuée reste un peu de jours sur la demeure, alors ils campaient sur l'ordre de Dieu et ils partaient sur l'ordre de Dieu. S'il arrivait que la nuée, après avoir reposé du soir au matin, s'élevât au matin, ils partaient alors. Ou bien elle s'élevait après avoir séjourné un jour et une nuit et ils partaient alors. Ou bien encore elle séjournait deux jours, un mois, une année. Aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure, les Israélites campaient sur place, mais lorsqu'elle s'élevait, ils partaient. Sur l'ordre de Dieu, ils campaient, sur l'ordre de Dieu, ils partaient. Ils rendaient leur culte à Dieu suivant les ordres de Dieu transmis par Moïse. Le fondateur de la maison, Bruno Hussard, que vous allez rencontrer, on va célébrer le 30e anniversaire de la maison samedi prochain. Il a fait un livre qui raconte sa vie et il l'a intitulé « Quand la nuée se lève ». C'est ça. Alors, parce qu'on parle des trompettes. Alors, sauf les groupes, on arrive à la rassembler sans trompette, je passe. Alors, la seconde année, au second mois, le 20e jour du mois, la nuée s'éleva au-dessus de la demeure du rendez-vous. Les Israélites partirent en ordre de marche du désert du Sinaï. C'est au désert de Paran que la nuée s'arrêta. Vous vous rappelez le désert de Paran où on a lu Habakkuk? Alors, la demeure fut démontée, et puis partirent les fils de Kehat qui portaient le sanctuaire, ont dressé la demeure avant son arrivée. Et puis alors, vous vous rappelez, celui qui nous a accueillis au pied de cette montagne, c'est Jéthro, hein, qui a joué un rôle considérable dans la structuration du peuple avant le don de la Torah. Maintenant qu'on quitte la montagne, Moïse s'adresse non pas à Jéthro, mais à son fils, Hobab, fils de Reuel. Reuel, Jéthro, c'est la même chose. Hein, le Madianite, son beau-père. Nous partons pour le pays dont Dieu a dit, je vous le donnerai, viens avec nous, et nous te ferons du bien. Dieu a promis du bonheur à Israël. Je ne viendrai pas, lui répondit-il, mais j'irai dans mon pays, dans ma parenté. Ne nous abandonne pas, reprit Moïse, car tu connais les lieux où nous devons camper dans le désert, et ainsi tu seras nos yeux. Il paraît qu'en arabe, le guide de la caravane s'appelle encore Dalil, pas l'œil. Si tu viens avec nous, ce bonheur que Dieu nous donnera, nous te le donnerons. On ne dit pas explicitement que Jéthro a refusé. Qu'est-ce qui se passe, en tout cas, c'est que l'Arche d'Alliance elle-même va se faire le guide étape en étape, jusqu'au lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, jusqu'à ce que David vienne la chercher pour la mener solennellement, entre guillemets, jusque Jérusalem, qui va devenir, de par ce fait même, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Signification qui se projette jusque dans l'Apocalypse. Alors, ils partirent de la montagne de Dieu pour faire 3 journées de marche. L'Arche de l'Alliance de Dieu devait les précéder durant ces 3 journées de marche, leur cherchant un lieu d'étape. Et c'est Dieu lui-même qui se fait le guide, cherchant un lieu d'étape. Quand l'Arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et à l'étape, il disait « Reviens, Seigneur, vers les multitudes des milliers d'Israël. »